Au programme de la prochaine demi-heure, d'abord le film que beaucoup de cinéphiles attendaient au prochain festival de Cannes, le nouveau film de Paolo Sorrentino, le réalisateur de Il Divo, près du jury à Cannes en 2008, ou encore de La Grande Bellezza. Il est sorti hier en Italie, il s'appelle Loro, il évoque la vie personnelle de Silvio Berlusconi. Que veut-il? Qu'en pensent les Italiens? On va joindre dans un instant notre correspondant à Rome, Olivier Cougar, qui est là déjà. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrick.
Merci d'être là. En 64, le groupe Yé Yé Les Parisiennes, créé par le pianiste et chef d'orchestre Claude Bolling, chantait ceci. Ans plus tard, le Quatuor se reforme avec Ariel Dombal, Mareva Galanter, Ina Modja, Elena Noguera. Et voici ce que ça donne, un moment capté par Thierry Geffrotin lors des répétitions de leur spectacle qui débute dans un mois.
Il fait trop beau pour travailler, ce serait dommage de ne pas en profiter. Hey. Laissons là nos cahiers et nos bouquins.
Et on lâche.
Ils peuvent bien attendre jusqu'à demain.
Jean.
Il fait trop beau pour travailler. Ça, c'est un temps à ne pas se fatiguer. Prenons vite le large et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler.
Voilà le chant et la Corée, on entend jambe, il faut lancer la jambe. Bonjour Ariel Dombal.
Bonjour.
Bonjour Ina Modja. Merci d'être avec nous. Bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour Patrick.
Vous allez tout nous raconter tout à l'heure à 9h15 et puis à 9h25 on aura le billet de Nadia Dame. Nadia qui revient ce matin sur l'éviction de la soprano Julie Fuchs de la Flûte Enchantée qui doit se jouer en mai à l'Opéra de Hambourg. Julie Fuchs n'incarnera pas Pamima, l'Opéra de Hambourg, ne souhaitant pas qu'elle se produise sur scène enceinte. On va tout de suite partir pour l'Italie découvrir un film qui aurait pu se retrouver en compétition à Cannes. Il s'agit du nouveau film de Paolo Sorrentino, Loro. La légende dit qu'il n'aurait pas été sélectionné car ses distributeurs Universal et Pathé ont dérogé à l'une des règles du festival en le faisant d'abord sortir en salle en Italie. Olivier Cougar, vous l'avez vu donc ce film. Que vaut ce nouveau Paolo Sorrentino consacré à la vie du Cavaliere?
Écoutez Patrick, c'est un film déroutant. On passe un peu par toutes les émotions, le dégoût, la surprise, le rire. Alors on reconnaît immédiatement la patte de Paolo Sorrentino avec ses longs travelling, ses scènes filmées parfois comme des clips, avec de la musique toujours bien sentie et parfois au contraire des temps longs, des plans fixes composés comme des tableaux. Le spectateur ne sera pas du tout dépaysé. On retrouve toute l'esthétique de La Grande Bellezza qui a été primée aux Oscars. Alors Loro raconte comment un entrepreneur véreux originaire des Pouilles souhaite par tous les moyens s'approcher de lui, en l'occurrence Silvio Berlusconi, pour faire partie justement des Loro, c'est-à-dire des courtisans qui entourent Silvio Berlusconi. Et pour arriver à ses fins, cet entrepreneur va jouer sur le faible de Silvio Berlusconi pour les femmes et les célèbres soirées Bunga Bunga. Dans ce film d'ailleurs, les femmes sont réduites à l'état d'objets, en l'occurrence d'objets sexuels. Paolo Sorrentino multiplie les scènes crues et osées. J'ai d'ailleurs entendu s'échapper pendant la projection plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est dégoûtant de la part de certains spectateurs. C'est un film en fait qui prend une toute autre direction, une toute autre dimension lorsque le personnage de Berlusconi fait son entrée finalement assez tard dans l'intrigue. Il est magnifiquement interprété par Tony Servillo, l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino, qu'on a déjà notamment vu dans La Grande Bellezza ou encore Il Divo au prix du jury à Cannes en 2008. On découvre alors un Berlusconi en proie au doute qui essaye désespérément de reconquérir sa femme Véronica Lario. Un Berlusconi fragile, parfois touchant. Alors au final, on reste un petit peu sur notre faim. L'intrigue manque de cohésion et surtout Sorrentino a vraiment poussé la vulgarité à l'extrême. On aurait aimé en fait passer plus de temps avec ce personnage de Silvio Berlusconi à l'issue de cette première partie. Désormais, attendons de voir ce que nous réserve la deuxième partie du film qui devrait sortir ici en Italie le 10 mai.
Ah oui, c'est en deux parties. Donc le 10 mai, deuxième partie. Olivier, vous avez pu recueillir l'avis de spectateurs après la sortie de cette première partie de Loro. Qu'en ont-ils pensé?
Ah oui Patrick, hein, j'ai pu croiser Giancarlo, Ida, Carlo et Giulia à la sortie de la projection au cinéma Barberini de Rome. Et les avis sont très partagés, je vous propose de les écouter.
C'est à la fois drôle et sérieux et aussi un peu ironique, une sorte de Fellini. C'est très réaliste. Ça s'est passé comme ça en Italie. C'est notre histoire où tout est basé sur les apparences et sur l'arrivisme des autres.
Par rapport aux autres Sorrentino, il est moins beau, mais reste intense au début. C'est un peu superficiel sur l'aspect politique, mais sur l'aspect esthétique, sur la société qui est née pendant l'ère Berlusconi, c'est plutôt bien.
Sorrentino ci va in modo molto pesante.
Sorrentino
la main lourde. Il a eu la main vraiment très très lourde. Je m'attendais à une critique de Berlusconi. D'ailleurs, je pense même que c'est vraiment l'objectif du réalisateur, de créer presque une sensation de malaise. Et moi, c'est la sensation que j'ai éprouvée.
Il ne m'a pas plu, je l'ai trouvé vulgaire. C'est un peu saturé par une succession d'images sans but précis. Et en plus, le fait d'avoir fait deux parties, d'après moi, c'est juste un moyen de gagner plus d'argent au box-office.
Intéressant ces réactions que vous avez recueillies, Olivier Cougar, correspondant d'Europe 1 à Rome, sur ce film événement qui vient donc de sortir en Italie. Pas encore de date de sortie, je crois, en France, mais me dit-on, pas avant l'an prochain sans doute, et donc pas de projection, pas de démonstration au prochain Festival de Cannes. Merci beaucoup, Olivier Cougar. Vous restez avec nous. Dans un court instant, Ariel Dombal et Ina Modja vont nous parler de la reformation du quatuor Les Parisiennes, un demi-siècle après leur création par Claude Bolling. À tout de suite.
Europe 1, 9h08. Europe 1, 9h09, Patrick Cohen.
Avec nos invités ce matin, Ariel Dombal et Ina Modja, qui se produiront dans un peu moins d'un mois sur la scène des Folies Bergères pour le spectacle Les Parisiennes, aux côtés de l'autre moitié du quatuor, il faut les citer, Maréva Galanter et Elena Noguera. Thierry Geffrotin va nous en parler dans un instant. On va entendre des extraits à la fois du spectacle et du disque qui paraît dans quelques jours. Vous avez enregistré une quinzaine de ces chansons des Parisiennes. Avant cela, un petit clin d'œil à l'ambiance yéyé, aux années 60, au quatuor, au groupe original formé par des filles qui étaient quatre danseuses à l'origine: Raymond Bronstein, Anne Lefébure, Hélène Longuet, Anne-Marie Royer. Voici, nous sommes en 65, voici les hommes de 40 ans. De 40 ans par les Parisiennes, le groupe original du début des années 60, créé par Claude Bolling, pianiste, chef d'orchestre, compositeur évidemment, groupe qui en 64 avait sorti, on a entendu un petit bout tout à l'heure, Il fait trop beau pour travailler, qui devint un énorme tube, et puis le groupe a réalisé 4 albums entre 64 et 72. Revoici donc un quatuor dénommé Les Parisiennes, qui reprend une partie des chansons du répertoire original. Thierry Geffrotin. C'est à vous.
Eh bien, toute une génération, et j'en suis, même si je n'étais pas bien grand, se souvient avec bonheur de ce groupe exclusivement féminin. Quatre danseuses, donc réunies autour d'une idée du compositeur, du pianiste, grand pianiste, hein, il faut le dire, ouais. et compositeur Claude Bolling. Avec les Parisiennes, un air frais, mutin, feel good, diraient les Américains, a soufflé sur la variété française au milieu des années 60. Beaucoup de leurs chansons ont été des tubes, hein, vous l'avez dit, on le dit tous, hein, il fait trop beau pour travailler étant le plus connu. Les Parisiennes ont littéralement fasciné Laurent Ruquier durant son enfance. Il a donc décidé de remonter ce groupe en faisant appel à un autre quatuor de charme, Ariel Dombal, donc Mareva Galanter, Ina Bodja et Elena Noguera. Toutes les quatre travaillent d'arrache-pied. En ce moment, on est encore un peu loin de la première, mais ça bosse, et merci à elle d'ailleurs de m'avoir accueilli pendant une répétition.
Il fait trop beau pour travailler, nous on s'en va et on vous laisse les clés, mais si vous voulez nous suivre, vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler, il fait trop beau pour travailler, il fait trop beau pour travailler.
Il faut encore qu'on se mette d'accord sur les dommages. Il serait dommage de ne pas...
Qui serait ce serait dommage de ne pas en profiter.
Ce
serait dommage de ne pas en profiter. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ce serait dommage de ne pas en profiter.
C'est plutôt dommageux que dommage.
Ce serait dommage, tellement
oui,
dommage.
Mais c'est plus élégant, mais...
Ce serait dommage.
Comment vous dites Ariel Dombal en vrai,
ce
on dirait
dommage.
Dommage. Ina Modja, comment vous le dites
Ce serait dommage de ne pas en profiter.
Non, mais c'est ça. Ils mettent des accents. Il y a tout le phrasé
le
des
phrasé,
années.
Voilà.
Et il faut dire que
avec les accents, Tony.
Oui. Et ce qui est absolument rafraîchissant, c'est que c'est vraiment un groupe pop, enfin yéyé, avec ces quatre femmes. Girls Band, qui revendique des tas de choses, mais dans une espèce de gaieté, d'insouciance incroyable qui était l'époque.
Ah bah hein? la gaieté, il n'y a aucun doute, on essaie de la faire passer dans la radio depuis 9h en écoutant à la fois des versions originales et les vôtres, Ariel voilà. Dombal, Ina Modja, Mareva Galanter, Elena Guerra, donc en pleine répétition. Travail sur le texte, il y a aussi beaucoup de travail sur la chorégraphie, hein, évidemment,
oui,
Ina Modja.
Absolument, on a 25 titres, 15 costumes différents, de la chorégraphie tout le long. Donc de la première minute jusqu'à la dernière, tout est chorégraphié, les mains, les pieds, le corps, tout est chorégraphié.
Oui, ça chante, ça danse, il y a des lumières, c'est très spectaculaire. C'est aux Folies Bergères. Donc, mais en même temps, ce qu'il y a de très spécifique, et il faut le dire parce que c'est rare, les comédies musicales, c'est souvent sur bande et tout est un peu en conserve et puis les gens bougent sur la scène. Mais là, nous chantons vraiment notre orchestre et sur la scène.
Alors,
et on a des
sur
danseurs.
La scène. Ah,
oui,
super.
Oui, donc c'est du vrai live.
Très bien.
Et c'est ça la grande différence.
Thierry, on peut faire donc un spectacle avec les chansons des Parisiennes.
Ah oui, absolument. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment le début, hein, la répétition. Mais je pense qu'on peut faire confiance à Stéphane Jarny, le metteur en scène, un chorégraphe. Hein, on se souvient, c'est le chorégraphe de La Nouvelle Star. C'est lui aussi qui a notamment mis en scène la comédie musicale Saturday Night Fever. Donc le spectacle, vous l'avez dit, sera très dansant. Le premier groupe des Parisiennes a été constitué de danseuses. Hein. Un spectacle qui aura aussi des airs de revue. On sera aux Folies Bergères, mêlant danse, chant, comédie. Donc une vingtaine de chansons sur des musiques de Claude Bolling. Vous voyez un peu le genre. Hein. Souvenez-vous de Borsalino. C'est Claude Bolling, hein, Borsalino notamment. Hein. Quatre musiciens live, quatre danseurs aussi. Il y aura des danseurs avec vous. Vous ne serez pas seul. Hein.
Oui, absolument. Oui, ah, c'est un show, vraiment le girls band dans toute son amplitude. Ça déménage.
Alors, et une énergie, une joie de vivre à toute épreuve. Et on va réécouter un extrait de la répétition où j'étais avec vous samedi. Et on peut dire que vous vous amusez. Et je pense que le public aussi va s'amuser. Hein.
On a vraiment plus rien à se faire. C'est encore elle qui se paieront nos têtes. Ça sert à bien d'être honnête. On a vraiment plus rien à se faire. Mais moi, j'ai quelque chose à mettre, une vieille paire de chaussettes que je peux filer à Elena. Qui perd toujours une chaussette.
Je perds toutes mes
chaussettes. Très bien, je reviens tout le début là.
Les parisiennes, donc.
Les filles,
des Folies Bergères. À partir du 24 mai, l'album sort, lui, vendredi. Racontez-nous votre réaction quand Laurent Ruquier a frappé à votre porte ou vous a téléphoné ou vous a proposé. D'abord, est-ce que vous connaissiez les Parisiennes? Parce que alors, vous, vous n'avez pas grandi comme Thierry Géfrotin ou comme moi-même dans les années 60 à Paris ou en France même, puisque je rappelle, Ariel, vous êtes née...
dans le Connecticut, j'habitais le Mexique.
Aux États-Unis. Alors, Ina, vous êtes née à Bamako. Oui. Donc les Parisiennes ne sont peut-être pas arrivées jusqu'à vous.
On a vu beaucoup de choses, mais les Parisiennes, je ne connaissais pas. Je connaissais Il fait trop beau pour travailler.
Ah, quand même.
Et L'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est tout. Et quand Laurent m'a appelé, il m'a fredonné un peu la chanson et ça m'a tout de suite dit quelque chose. Donc, il m'a envoyé le disque, je l'ai écouté. Mais même avant d'écouter le disque, l'idée d'être avec ces trois filles incroyables que je ne connaissais pas encore, on se connaissait de vue, mais dont je connaissais le travail m'a beaucoup plu.
Et c'est vraiment un quartet. Et il y a une espèce de jubilation de girls band, c'est-à-dire que c'est assez rare. Je pense que c'est le seul girls band français, finalement. C'est, bien sûr,
il y a... Les Spice Girls sont de retour.
Français. Voilà, les Français. Bien sûr, nous, on adore les Supremes, on s'inspire, justement, de tous ces girls band. Il y a une espèce de solidarité féminine, de rire, de jubilation, et de grande complicité.
Vous êtes quand même quatre personnalités bien marqué, vous êtes trouvé facilement, on vous sent leader par exemple un peu dans ce groupe.
Non, on s'est trouvé très facilement parce qu'on est chacune des couleurs différentes, des tonalités, et en même temps Laurent a choisi quatre chanteuses qui avaient déjà fait de la scène, qui avaient eu déjà des succès, ce qui n'était peut-être pas le cas des Parisiennes, qui étaient surtout des danseuses et qui étaient mises en scène par Roland Petit. Mais nous sommes des chanteuses qui avons déjà vendu des disques, fait des concerts, assuré vocalement. Voilà, ils voulaient ça absolument. Quatre chanteuses.
Alors, beaucoup de Claude Bolling, je l'ai dit. Aussi la Matchis que vous chantez là. C'est encore un autre répertoire. Donc, on sort un petit peu de cet univers des années 60, un peu tout fou, un peu tout le monde, il est beau là.
Oui, parce qu'en même temps, elles ont fait quelques reprises, par exemple. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, beaucoup de tendresse, car il n'est rien qui me plaise autant que me griser de ton charme. En sorcelant. Voilà, c'est Paris.
Formidable,
c'est Paris.
Formidable, la vie.
Patrick, il est 9h21. Je connais peu de chanteuses qui acceptent de chanter si tôt.
Ah, effectivement, c'est pas banal. Deux documents avant de refermer cette séquence. On va entendre dans un instant un extrait de l'album qui paraîtra vendredi, que vous venez tout juste d'enregistrer. Et juste avant, le talent de Claude Bolling, donc le pianiste de jazz et l'auteur, enfin le compositeur original.
Très très heureux car lui est encore en vie.
Il a eu 88 ans récemment. Alors Borsalino, les Brigades du Tigre pour les musiques les plus connues. Écoutez cette archive. Nous sommes en septembre 85 sur Europe 1 dans l'émission Studio 51 présentée par Michel Drucker. Bolling joue une version jazz du thème de Borsalino au piano et en direct. Piano de Claude Bolling et la version des Parisiennes 2018, alors
l'aventure, c'est pour les loups, c'est pas pour toi, ce n'est pas pour nous, c'est pour les fous qui n'ont de goût que pour la peur au ventre et qui se foutent de tout.
Bravo, Ariel Domba, Lina Modja. Petit extrait de la chanson du même nom, donc des Parisiennes présentes sur l'album qui sort vendredi.
Les Parisiennes sont toujours pressées, pressées. Les Parisiennes.
Sur cet album qui sort vendredi, une quinzaine de chansons, il fait trop beau pour travailler, à ce qu'on est bête, on fait peur aux garçons, et puis aussi la phrase fétiche de Nadia Dam qu'on va accueillir dans un instant, je n'ai vraiment plus rien à mettre. Voilà, Nadia Dam, sa chronique arrive tout de suite, elle est parisienne sur la scène des Folies Bergères à partir du 24 mai et en tournée en France fin 2018, oui, oui, vous serez en tournée après.
Ah oui, oui.
Voilà, là, le billet de Nadia Dam à suivre dans un instant.
Europe 1, 9h24. Europe 1, 9h25, Patrick Cohen.
Bonjour Nadia Dam.
Bonjour Patrick.
Nadia, ce matin, donc vous revenez sur l'éviction, histoire étonnante, hein, éviction de la soprano Julie Fuchs de la Flûte Enchantée, qui doit se tenir en mai à l'Opéra de Hambourg.
Oui, pas de Ragnana, pas d'opéra, c'est ce que semble estimer l'Opéra de Hambourg qui vient de témoigner d'une classe et d'une élégance rare. La soprano Julie Fuchs, donc chanteuse lyrique, a eu la très désagréable surprise d'apprendre qu'elle était écartée de son rôle de Pamina dans la représentation de la Flûte Enchantée de Mozart qui était donc prévue pour le mois de mai. La production l'en a informée 4 jours à peine avant le début des répétitions et a publié un communiqué dans lequel elle écrit, je cite, que l'intégrité artistique de la production de la Flûte Enchantée ne peut être maintenue si la soprano qui chante Pamina est enceinte de 4 mois. Et en effet, la chanteuse est enceinte. Elle en avait informé l'institution bien en amont. Institution qui justifie pourtant cette décision par le fait que de nombreuses scènes, je cite toujours, demandent des efforts physiques, y compris des scènes de vol aérien. Alors moi, j'y connais rien en art lyrique, mais je crois que les gens viennent voir la Flûte Enchantée, hein, pas le Cirque du Soleil. Je vois pas bien en quoi ne finalement pas suspendre la chanteuse à des poulies et la balancer au-dessus de la scène prive la production d'un choix artistique fort. Ou alors ça a vachement changé l'opéra. Il lâche des vachettes sur scène, ça se finit avec l'épreuve de poteau. Auquel cas, mettez Moundir dans le rôle de Pamina et on n'en parle plus. En réalité, ce que semble constituer cette affaire, c'est bien une discrimination à la grossesse. C'est d'ailleurs ce que dit Julie Fuchs elle-même, qui a publié un post sur Facebook sur le sujet. La discrimination à la grossesse, c'est une réalité documentée, quantifiée. 1 femme sur 4 en serait victime. Selon le défenseur des droits, les femmes enceintes sont même les plus touchées par les inégalités au travail, donc licenciement abusif, non-embauche, placardisation, remarques désobligeantes. Si vous êtes un être utérin et que vous attendez un heureux événement, le meilleur moyen d'être traité avec égard, c'est encore d'être un panda enfermé aux eaux de Beauval. Et d'ailleurs, à un moment donné, il va peut-être falloir revoir notre définition de ce qu'est un heureux événement. Une grossesse, c'est déjà un certain nombre d'épreuves assez désagréables. La prise de poids, les nausées, la rétention d'eau, les livres de Marcel Ruffo. Si en plus il faut insister pour continuer à bosser, moi je suis volontaire pour la première grève de pénis sur une femme. Parce que s'il faut avoir un petit truc en plus pour ne pas avoir plein de droits au moins, bon, on va le faire.
Merci à vous Nadia Dam, je vous ai vu choquée particulière, Ina Modja.
Oui absolument, on est en 2018, c'est assez aberrant de... Les femmes font des enfants.
Ça fait partie de la vie. Une carrière en même temps.
Absolument, c'est de la discrimination.
Et il faut dire que Ina, qui donc fait partie du groupe des Parisiennes, est vraiment une Parisienne 2018 et elle fait des choses absolument formidables. Elle est vraiment du côté des femmes et elle a toute, elle est suivie et elle est vraiment une figure très brillante sur ce domaine.
Merci à vous, Ariel Dombal, Ina Modja. Merci pour cette bonne humeur, ce chant, cette joie de vivre. Vous nous avez communiqué ce matin avec les Parisiennes et vous n'êtes pas prête de vous quitter. Donc l'album, je le rappelle, sort vendredi. Le spectacle débute le 24 mai aux Folies Bergères à Paris jusqu'au 3 juin et ensuite il y aura une tournée à la fin de l'année en France, le 20 octobre à Tours, le 24 octobre à Nantes, le 3 novembre à Lyon, 9 novembre à Marseille, le 10 novembre à Nice, le 17 novembre à Strasbourg.
Oui, une vraie tournée.
Vous avez... de grandes filles.
On se les arrache même en province.
Voilà, on demande des places dans l'autocar déjà. Merci à vous et à bientôt.